bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit.
RMC Football Show.
Ah, ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà, tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non, hein?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, c'est l'After, la seule émission au monde de football qui vous berce jusqu'à minuit à la radio sur RMC et en simultané à la télévision sur RMC Sport News. Dans l'After ce soir, le taulier de cet After qui a désormais un nouveau colocataire italien, paraît-il, il s'appelle Rocco. Daniel Riolo, oh. Salut Daniel.
Salut les amis.
Il m'a raconté ça tout à l'heure.
Oui mais mal, visiblement mal.
Non. C'est vrai ? Pourquoi ?
Non. Bah parce que mal, parce qu'en fait le pari ne concernait pas que moi. C'est drôle que ce soit sur moi, j'ai aucun problème avec ça, mais en fait c'était tout le monde. En fait c'est tous les gens qui auraient parié sur le Bétis ce soir-là auraient eu la visite de Rocco.
Voilà.
Donc moi, je veux bien être le chef du pari puisque c'est moi qui l'ai lancé.
Voilà.
Donc je veux bien qu'il passe chez moi en priorité. Pas de problème. Mais après, il passe chez tout le monde.
Mais alors,
chez
ça...
tous ceux qui ont parié comme moi.
Donc,
et je pense que c'était à mon avis 90% des gens.
Oui,
même,
je pense que.
Dont Jérôme.
On est tous à avoir un nouveau colocataire. Tu as bien
raison.
Non, mais j'avais pas envie de jouer moi ce soir-là.
Le melon de l'after qui a marqué 13 fois plus que Choupo-Moting au Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten. Salut Jérôme.
Salut, JT.
C'est pas gagné pour qu'il te dépasse, hein, Choupo-Moting quand même.
Ouais, ouais, ils ont essayé hein, pourtant.
Peut-être au niveau des passes des pour être dépassé.
Là, il va falloir qu'il reste 15 ans. Hein.
Mais c'était juste pour mettre une petite pièce dans le jukebox, je le connais par cœur, mon Jérôme. Ouais, et encore, pas sûr. Hein. Nous allons largement revenir sur cette victoire et qualification du Paris Saint-Germain. Donc ce soir, face à Dijon, 3-0, quart de finale de la Coupe de France. Et puis aux alentours de 23h40, nous parlerons de Bordeaux après ce limogeage de Ricardo. Et puis j'aurai aussi à vous faire écouter Bruno Genesio aujourd'hui en conférence de presse qui est un petit peu envoyé sur lui et sur ses joueurs. Vous allez pouvoir me donner votre avis. Lyon qui affronte demain Caen, ce sera un autre quart de finale de cette Coupe de France. Si pour certains, pardonnez-moi, l'essentiel est dans l'actel, pour nous, c'est dans les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, tu viens d'arriver dans le studio pour l'after. Nous ne t'avons pas encore entendu sur cette rencontre Paris Saint-Germain-Dijon. Quels sont tes 3 points? Peut-être que ça ne concerne pas uniquement ce match.
Le premier, si, sur la victoire attendue, tranquille, du PSG, évidemment. Le deuxième point, sur deux joueurs, deux individualités, parce que... certains vont dire que c'est pour rire que je le fais, mais non, parce que j'ai quand même envie d'en parler pour le premier, Choupo-Moting. Et le deuxième, Paredes. J'aimerais échanger avec mon ami Jérôme sur Paredes et savoir son regard et avoir son regard sur ce joueur. Et puis le troisième point, effectivement, rien à voir avec le match de ce soir. Si on a le temps, ne serait-ce que 3 minutes, pour parler de ce qu'a décidé la justice européenne aujourd'hui par rapport au Real Madrid, au Barça et à 2 autres clubs espagnols. Il doit y avoir Athletic Bilbao et la Real Sociedad également, il me semble, qui a donc indirectement et des années après validé des aides d'État.
Ok.
J'aimerais qu'on en parle et j'aimerais que surtout entendent tous ceux qui ne cessent de répéter comme argument majeur dans leur détestation du PSG que c'est un club financé par un État. J'aimerais qu'ils comprennent et qu'ils lisent cette décision de justice, parce que franchement, c'est assez fort ce qu'il y a dedans. Voilà.
Eh bien, tu nous en parleras un petit peu plus tard dans cette émission. Promis, je ferai un petit peu de place pour ton troisième point. Jérôme, c'est à toi, tes 3 points.
Bon, là, le premier, bah, forcément sur le match du soir, j'ai dit Paris trop fort, trop facile. Qu'est-ce que tu veux, pas d'adversité, donc il y avait quasiment pas de match. Le deuxième point, concernant Bordeaux, on en a un peu parlé, mais on en reparlera certainement tout à l'heure. On continue le grand n'importe quoi. Après pas mal de bouleversements dans ce club, d'un point de vue sportif, mais aussi administratif, je crois que c'est le summum, là encore, de virer l'entraîneur à quelques journées de la fin. Le troisième, c'est Genesio. Le coup de gueule, oui, mais alors pourquoi en fait? Parce que pourquoi un coup de gueule après une défaite à Monaco de la sorte, comme on a vu, un Lyon totalement absent, mais c'est récurrent à Lyon. Donc j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on voit ça à Lyon. Alors pourquoi aujourd'hui?
Parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas, apparu aussi net.
Ah ouais, c'est
donc
pour ça.
Là il y avait besoin de nouveau petit coup de gueule, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe là-bas et que ça s'améliore.
Ok.
Et le prochain match, donc normalement, c'est Caen qui devrait payer à la vaisselle cassée.
D'accord. Okay. Voilà. Bon. Bah, je me posais la question, Daniel a répondu.
Ouais, mais cher, si tu veux, on pourra en reparler, et Daniel pourra te re-répondre, et pourras en re-reparler, et bon, on n'avancera pas, mais ce sera sympa quand même. vous voulez les trois points?
Bah, vas-y.
J'ai un peu le trac, ça fait longtemps que j'ai pas fait trois points. Ouais, bon, je me dépêche, promis. Le premier, André Di Maria, un doublé magnifique, enfin, surtout le premier but assez incroyable, et c'est vrai qu'on en parlait durant l'émission. André Di Maria, marche sur l'eau en ce moment avec le Paris Saint-Germain. J'ai pas souvenir qu'il était si fort avec le PSG depuis qu'il est arrivé.
Deuxième partie de saison, toujours. C'est un joueur qu'il faut presque arrêter de critiquer sur les mois août, septembre, octobre, novembre, décembre, parce que maintenant c'est récurrent. Et je crois me souvenir que même avant, au Real également, c'était toujours vers janvier qu'il commençait les saisons. C'est un peu surprenant, je veux dire, on peut le critiquer avant, parce que c'est pas non plus normal qu'un joueur soit bon uniquement 4 mois par an, évidemment. Mais en tout cas, là maintenant, c'est clair, c'est toujours la même histoire.
Ah oui, mais attendez, on va pas arrêter mes 3 points alors que j'ai quasiment pas parlé. Ouais. C'était tes 3 points
comme ça
ou pas
faisait longtemps, en fait, je me suis dit, il faut bonifier les 3 points.
T'as bien raison.
Je les ai bonifiés alors, parce que sinon, ils voulaient pas dire grand chose.
Ce premier point,
il fallait les améliorer.
Ouais, on continue de bonifier. Je suis très inquiet pour Dijon. 4 victoires, 4 défaites de suite, pardonnez-moi. Moi, en Ligue 1, un match.
Ouais, mais alors attends, inquiet comment? Ça va t'empêcher de dormir ce soir. T'auras oublié dans 5 minutes ton inquiétude. j'ai peur que tu abuses un peu de mots que tu ne maîtrises pas.
Ou
qui ne reflètent pas la réalité.
Qu'est-ce que je vous aime. J'adore cette émission.
Parce que
c'est
je
génial.
M'inquiète pour Dijon.
Non,
franchement, j'ai du mal à te croire.
Et alors moi, je vais prendre le contre-pied de Daniel. T'attendais quoi de Dijon ce soir, en fait?
J'attendais un petit peu de jeu, j'attendais un petit peu de folie.
Est-ce que tu crois réellement qu'il est inquiet? Je te sens totalement mytho sur ton inquiétude. Je propose d'ailleurs immédiatement un vote sur le compte de l'after.
Exactement.
Est-ce que vous croyez?
On va publier un
sondage. J'étais réellement inquiet quand il parle de Dijon.
Voilà. Ou est-ce que j'allais oublier dans moins de 5 minutes?
Oui. Ouais. Moi je pense au fond que tu t'en fous. Mais que cette sollicitude, cette bienveillance improvisée à l'égard des Dijonais, je la sens fausse, pardonne-moi.
Non, elle est pas fausse.
Bon, quel est ton troisième point?
On peut remettre la musique et tout ça. On peut faire une heure sur mes trois points, aucun problème.
Vas-y,
mon troisième point, c'est à faire bondir Jérôme Rotten. Et là, vous allez voir, hein, je l'ai bossé. Je suis très inquiet. Non, pas du tout. Les Girondins de Bordeaux, moi, je trouve que c'est une bonne décision. On fustige souvent les propriétaires, les actionnaires de ne pas faire bouger les lignes, maintenir.
En ce point de vue, parce qu'au fond, je me demande si je suis pas également sur cette ligne-là.
Voilà, de se maintenir comme ça totalement amorphe, eh bien au moins ça bouge pour Bordeaux. On verra ce que ça donne, mais au moins on prépare déjà l'année prochaine, et donc je suis plutôt en phase avec cette décision, surtout si avec Ricardo, et on l'a bien vu depuis début janvier, ça ne marchait pas. Voilà Jérôme, on en parlera tout à l'heure.
Mais oui.
Ça va, oui, monsieur.
Ça va être incroyable.
Je te sens beaucoup moins inquiet que tout à l'heure.
J'ai même oublié mon deuxième point, donc c'est vous dire. Benjamin, 32 ans, supporter du PSG, nous appelle au 32-16. Salut Benjamin.
Salut messieurs, je peux juste faire une petite parenthèse avant de parler du match, parce que je suis un auditeur historique de l'After et ça fait longtemps que je t'ai pas passé, donc c'est la première fois que je passe avec Jérôme.
Eh bien vas-y.
Et Jérôme, je l'ai joué en tournoi de tennis au TCP il y a quelques années avant qu'il aille à Bastia.
Oh bah, ils sont souliers.
Je voulais lui faire un petit salut spécial.
Mais t'avais fait quoi?
Bah, j'avais perdu, tu sais, moi, en tant que supporter de Paris, t'avoir en face, ça m'avait fait perdre tous mes moyens. J'ai participé un peu à la mélonite aiguë.
Désolé.
Hein. mais ça avait été très sympa et Jérôme avait été adorable.
Ouais, et puis en plus, c'était court, donc c'était bien.
Je t'avais un peu plus court.
Je plaisante.
Mais bon, repassons au match, c'était une petite parenthèse.
Je plaisante, avec plaisir.
Un petit coucou.
Vas-y, dis-nous ce que tu as pensé de ton équipe.
Bah écoutez-moi, ce soir, bon, c'était un match un peu facile, hein. Il y avait quand même pas beaucoup d'adversité en face, mais moi ce que je retiens quand même, c'est que j'ai trouvé, notamment sur la première mi-temps, après c'était beaucoup dans la gestion, qu'il y a une qualité physique là dans l'équipe de Paris que j'ai pas toujours vue dans les dernières années. J'ai l'impression que là on arrive assez en forme au bon moment. Quand je vois le match de Di Maria, Bernat déjà samedi contre Nîmes, il avait fait un gros match, je le vois faire des accélérations que je le voyais pas du tout faire avant. Draxler, même Verratti là à son retour, je trouve que tout le monde a l'air vraiment bien physiquement. Je trouve que on fait beaucoup de passes dans les intervalles, on a des joueurs rapides là qui prennent la profondeur, ça c'est des choses qu'on voyait pas beaucoup avant là, avec ces passes, avec des joueurs qui rentrent des côtés dans l'axe avec une grosse vitesse. C'est voilà, je trouve vraiment que c'est des choses positives. J'espère qu'on va continuer à avoir ça dans les prochains matchs et notamment en Champions League.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, sur la qualité physique. Moi, j'étais au parc aussi en simple spectateur samedi. J'ai noté une bonne mi-temps de la part des deux équipes contre Nîmes, mais Nîmes a totalement explosé. Parce que physiquement le PSG était largement au-dessus. J'ai vu un pressing de Dani Alves à la 65e minute, alors que Paris menait largement et aurait pu se contenter de ça. Non, il y avait pas son retrait, ils y allaient, ils couraient tous ensemble. Encore aujourd'hui, t'as raison de mettre en avant, et Daniel le disait. Si tu parlais de Di Maria, comme quoi il était bien. Di Maria, c'est ça, c'est chaque ballon reçu aujourd'hui, c'est souvent dans le rythme, en profondeur. Des appels de balles qui ont fait très mal, et ça montre quand même que physiquement tous les joueurs qui jouent beaucoup de matchs, hein, Thiago Silva encore aujourd'hui, Bernat, Di Maria, pas de problème. J'ai encore un petit bémol, et c'est ce que je disais sur le milieu de terrain, Paredes et Verratti, où j'attends un peu plus de volume de leur part.
Justement, en plus, Daniel Riolo va avoir très envie que tu nous parles de Paredes. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Merci beaucoup.
Sur la forme actuelle et par rapport
merci
à ce
Benjamin.
Que disait Benjamin, c'est à la fois, effectivement, même sur un petit match comme ça, je trouve qu'il y a une rigueur, il y a une volonté de bien faire, il y a des phases de pressing qui sont très intéressantes, en début de match, en milieu de match, à la fin du match, vraiment une volonté de récupérer le plus vite possible le ballon. C'est plutôt technique dans l'utilisation, et en même temps mélangé. Il y a parfois dans les transmissions un peu de nonchalance, genre si on peut faire un dribble de plus on le fait, si on donne pas tout de suite à la bonne personne, parce que franchement, au vu du nombre de situations, si à chaque fois les ballons étaient bien exploités, il y en a 8 ce soir. Un coup je la donne à gauche, ça aurait été peut-être mieux de la donner à droite. Un coup c'est ça aussi qu'il faut noter. Si je suis entraîneur de cette équipe, je suis content parce que effectivement, je la vois aller vite dans les phases de contre quand elle est plutôt en bloc bas. J'aime bien quand elle presse haut et qu'elle récupère et qu'ils sont à quasi 8-9 joueurs et que le dernier joueur du PSG, il est 10 mètres à l'intérieur du camp de l'adversaire. Ça c'est très intéressant, ils arrivent à alterner les différentes phases de récup, et des fois je me dis c'est pourquoi vous essayez pas de jouer tous les coups offensifs à fond. Alors après, c'est toujours facile à dire, et après quand il y est, des fois tu te laisses aller au petit dribble, on sait tous comment ça marche. Mais ça pourrait être un carnage, hein, parce que franchement, en phase de récup, l'auditeur disait ils sont en forme et il y a pas de fatigue, physiquement ils sont bien. Ouais, c'est vrai, on a le sentiment qu'ils en ont sous le pied et qu'ils pourraient être encore plus écrasants. Et là, ce soir, attention, il y a pas toutes les vedettes, hein, sur le terrain. Tu joues quand même avec Choupo-Moting avant centre. T'as pas Neymar, il t'en manque beaucoup de joueurs. Il change plus trop son schéma maintenant. Clairement, maintenant on le sait depuis un petit moment, c'est les trois en défense centrale, ça bougera plus maintenant, c'est clair. Et deux mecs assez haut dans les couloirs. Il lui arrive, je crois que c'était dans le dernier match, il a terminé avec 8 ou 9 joueurs défensifs quasi. Là c'est pareil. Là, quand il a fait tous ces changements à la fin, il y avait très peu de joueurs offensifs, mais en fait ça change pas grand chose, parce que s'ils veulent jouer haut, ils jouent tous très haut, et puis comme il y a une qualité technique assez importante dans l'équipe, ça leur permet. Mais au final, tu donnes aucune chance, mais vraiment aucune chance à une équipe comme Dijon qui tient pas, qui a rien, qui a pas les armes pour faire quoi que ce soit.
Alors sache, Daniel, que nous avons respecté ton invitation à monter ce sondage. JC Drouet se dit très inquiet pour le DFCO. Le croyez-vous vraiment inquiet quand il parle de Dijon? Il y a quelques instants, il y avait qu'un vote, le mien, et on était à 100% de oui. On est passé à 14% de oui et 86% de non.
Sachez qu'il y a des qui croient vraiment dans l'inquiétude.
Ouais, il y a des peut-être la famille. Enfin bon, il y a des centaines de personnes qui ont déjà répondu à ce sondage. On fera un point régulier.
C'est un peu mytho quand même.
Je pense que c'est quand même très très important. On va parler un petit peu des individualités, pardonnez-moi, du Paris Saint-Germain. Mais juste avant, je vous donne ce rendez-vous. Vous le savez très certainement, cette semaine, RMC vous offre vos places pour la Ligue des Champions. Pour aller soutenir le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le mercredi 6 mars face à Manchester United, pour emporter vos places, rien de plus simple. Restez à l'écoute de RMC et dès que vous entendrez ceci... Vous envoyez foot au 7-32-16, envoyez foot au 7-32-16. Vous entendez le « Oh, les paris !» Vous prenez votre petit portable et vous pouvez peut-être remporter vos deux places pour la rencontre face à Manchester United. Vincent, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle. Bonsoir Vincent.
Bonsoir l'after.
Salut Vincent.
Je crois que tu avais envie, Vincent, de sortir une individualité du lot.
Ouais, tout à fait. Je trouve personnellement que, enfin, vous allez dire un peu ce que vous en pensez, c'est que sur ce match et même globalement sur l'ensemble des derniers matchs, un Verratti en bonne forme, je me demande si c'est pas le joueur le plus important de l'équipe et pas même devant des Mbappé ou voire même un Neymar, parce que je trouve qu'il régule tellement le jeu, il est tellement précis techniquement, ça va vraiment vite dans sa tête. Il décale, c'est lui qui voit les passes avant les autres et je trouve que vraiment pour le jeu de Paris, c'est peut-être même le joueur fondamental et sur des matchs importants comme Manchester, des choses comme ça, je trouve que il pose la base du jeu, tous les ballons passent par lui et quand il est en bonne forme, même si des fois ça dure pas 90 minutes, même sur une heure de jeu, je trouve qu'il est clairement indispensable. Après, le problème, c'est clairement son état physique et sa capacité à être là, malgré tout, dans les grands rendez-vous.
En fait, je
sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais t'as raison. Je crois que, déjà, il a un rôle important dans le milieu de terrain. Toute équipe, qui espère avoir une des meilleures équipes en Europe, doit avoir un milieu de terrain, maître du jeu, très complémentaire. Il l'est avec ses coéquipiers. Moins avec Paredes. Alors, ce soir, on n'a pas trop vu parce que, en face, c'était très faible. Je trouve que, il a besoin malgré tout d'avoir un joueur à côté de lui qui a un énorme volume de jeu. Marquinhos l'a très bien fait. Tu donnais l'exemple de Manchester United. C'est un match que j'ai commenté sur place. J'ai vu les efforts avant tout de Marquinhos. Verratti a fait beaucoup d'efforts, mais toujours dans la même zone, dans le cœur du jeu. Là, il va très rarement sur les côtés couper les actions parce qu'il peut pas physiquement, comme tu le dis. Et même en restant un petit peu dans cette zone centrale, de toute façon, au bout d'une heure de jeu, 70 minutes, il
plonge.
Oui. Donc il a pas un gros volume de ce côté-là. Et ça, c'est pas bon pour la suite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que techniquement, quand il arrive à mettre le ballon, du moins que la transition passe par lui, défense, milieu, attaque, bien sûr qu'il a un rôle important dans la conservation du ballon, dans la possession de balle, dans l'orientation du jeu. Et c'est un joueur qui peut pas être remplacé au PSG aujourd'hui.
Mais c'est le même Verratti que l'on voit depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou est-ce qu'il a vraiment évolué, Daniel ?
Mais c'est le même Verratti que tu vois que depuis qu'il est arrivé. C'est le mec qui va dribbler deux mecs devant sa surface, le mec qui va te faire plusieurs matchs assez époustouflants dans la saison. Mais moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir le même Verratti. Moi, ce que je veux, c'est un Verratti qui doit être essentiel au PSG quand les gros matchs vont arriver. Ce qu'on n'a pas encore vu. On ne peut pas ne pas être exigeant avec lui. Le match contre Manchester United à l'aller, il est très bon. Et le PSG ne peut pas espérer aller loin sans avoir un fort milieu de terrain, mais dans ce match-là, d'un point de vue du volume, je pense qu'il est 6-7e joueur en performance. Ah oui. Il y a plein de mecs qui ont fait un meilleur match que lui ce soir-là. Verratti, il doit pouvoir encore faire mieux. Le problème, c'est qu'il a pas une caisse suffisante, il a pas un physique suffisant. Alors si le choix, maintenant qu'il a, semble-t-il, un peu rangé sa vie, ce qui sera certainement positif pour lui... d'ailleurs, ça commence à être dit partout. Hein. Bon, ça fait des années que je répète, mais visiblement, les gens ont pas envie qu'on parle de ça. Mais petit à petit, c'est bien d'avoir la vérité. Il faudra qu'il le soit 90 minutes sur quart de finale de Ligue des Champions, parce que il a des qualités énormissimes. Maintenant, il ne tire toujours pas, il ne fait toujours pas de passes décisives. Il devrait aller beaucoup plus vite dans ses transmissions, parce que quand il fait ses petits dribbles de conservation, ça épate la galerie. C'est esthétiquement magnifique. C'est contre Dijon. S'il va plus vite que ça, dans un match de Ligue des Champions, alors il se rapprochera
de Modric, de Busquets, de ce qu'était Iniesta, de ce qu'étaient les milieux de terrain qui ont gagné des Ligues des Champions. Il est encore très très loin de ça. Le problème, c'est que...
Si je peux me permettre...
Oui, Vincent.
Si je peux me permettre, Jérôme Breton pourra en dire un peu plus. Est-ce que physiologiquement, il en est vraiment capable d'atteindre ce volume de jeu? Est-ce que finalement, c'est pas génétique? Est-ce qu'il n'est pas limité génétiquement? Peut-être qu'il ne peut pas avoir la caisse pour avoir une intensité comme un Busquets pendant 90 minutes, tout simplement.
Ça, c'est indéniable, et je pense que, en effet, alors il y a sa vie privée, mais ça, moi, ça me regarde même pas. Je pense que quand il est capable d'élever son niveau, de faire un match comme il l'a fait à Manchester, par exemple, où je pense que là, physiquement, il est au taquet. Il est à ce qu'il peut faire de mieux en termes de course. Alors c'est pas exceptionnel, en effet. Moi,
il revenait de blessure aussi. Hein.
Non.
Oui, non, mais
je veux dire que tu reviens de blessure ou pas, t'as des statistiques qui ressortent de tes performances, tes meilleures performances. Bah, moi, quand je jouais et j'étais à mon meilleur niveau, même quand je revenais de blessure ou quoi que ce soit, j'étais un des joueurs qui courait le plus sur le terrain. J'étais un des joueurs qui touchait le plus de ballons parce que j'attirais le ballon, c'était mon jeu. Après, j'avais d'autres défauts. Lui, Verratti, tu regardes pas le nombre de courses qu'il fait et le nombre de kilomètres, parce que de toute façon, il va être, même quand il est dans sa meilleure forme, il va être inférieur aux autres. Donc, tu vas le nombre de ballons qu'il récupère et le nombre de ballons qu'il touche où il arrive avec ses premières passes là. Je rejoins un petit peu Daniel sur le fait que par moment, il devrait, en fonction de l'adversaire et du niveau et du rythme du match, simplifier son jeu.
Mais
il a du mal à le faire.
Il peut atteindre l'excellence. Ouais. Le mec, il a en lui l'excellence. C'est ça qu'aujourd'hui, le mec, là, il va dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Paris demain se dit, tiens, je recrute Modric. Je recrute un genre de joueur comme ça. Et Verratti va sur le banc. C'est ça la réalité. Est-ce que lui, il veut, avec ses énormes qualités, aller encore plus haut, libérer son jeu? Mais ça, c'est des choses. Mais Ancelotti lui disait déjà quand il était tout gamin qu'il est arrivé. Tous les entraîneurs lui ont dit aujourd'hui, Tuchel, il ne peut pas se passer de lui.
Non, il peut pas.
Si l'option c'est de le reposer au maximum, et ça c'est très bien, je pense que c'est très intelligent de faire ça, de dire on va doser ton temps de jeu parce qu'on sait que tu n'as pas la caisse suffisante pour aller jouer le quart de finale. Allez, retour s'il y en a un, plus si ça se passe bien, pourquoi pas. Oui, gérez-le, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc au milieu de terrain, de toute façon, ce sera avec un Verratti qui sur 70-80 minutes pourra au milieu te nettoyer les ballons, te les ressortir, te mettre une passe au-dessus des lignes. Oui, ça, ok, pas de problème. De toute façon, tu n'as pas quelqu'un d'autre pour jouer à sa place.
Mais de toute façon, ils le veulent pas. Voilà. Ils le veulent pas, Daniel. Ils l'ont mis. Quand t'as un Verratti, pour finir sur le sujet, parce qu'on va pas y passer.
Non, encore 10 secondes et après.
Mais quand t'as un Verratti dans ton effectif comme ça, avec les caractéristiques qu'il a, forcément, tu dois construire ton milieu de terrain autour de lui. Tu peux pas lui mettre dans les pattes, comme tu l'as dit, un Modric, parce que Modric, par exemple, Modric-Verratti, c'est pas du tout complémentaire à mon sens.
Non.
Donc ils vont pas recruter ce genre de joueur. C'est pour ça que moi, pendant le match, je te disais que j'attendais que Paredes apporte autre chose et soit pas dans le confort comme Verratti peut l'être.
Paredes, il est encore timide. Je vois que franchement techniquement il est très à l'aise.
Oui.
Il a une très belle frappe de balle. Mm. Je pense qu'il est capable effectivement de jouer long, mais je trouve qu'il se retient. On a l'impression
garde les billes. On en parle dans quelques instants de Leandro Paredes. Et puis, il y a Paul qui nous appelle aussi, qui voudrait que l'on parle de Julian Draxler. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir composé le 32-16. On fait un petit point sur le sondage très important ce soir. Est-ce que j'étais vraiment très inquiet pour Dijon? Sachez qu'il y a près de 1000 votes. Regardez. Vous qui ne me croyez pas. 49% de oui, 51% de non. Non, il est absolument pas très truqué. Les gens ont senti la sincérité dans ma voix. Il n'est pas impossible que j'étais très inquiet. Mais c'est pas impossible.
Pas
tout de suite sur RMC.
RMC Football Show jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Jean-Christophe Drouet.
23h28, l'afterfoot, toujours avec Daniel Riolo et Jérôme Rotten, en plein cœur de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 grâce notamment à un doublé d'André Di Maria, 3-0 face à Dijon. Le Paris Saint-Germain est qualifié donc pour les demi-finales de cette Coupe de France. Demain, il y aura deux rencontres à 18h30, Rennes-Orléans, et à 21h, Lyon-Caen, pardonnez-moi, d'ailleurs, on reparlera de l'Olympique Lyonnais un petit peu plus tard dans cette émission. Avant de parler de Bordeaux et du limogeage de Ricardo, continuons un peu sur le Paris Saint-Germain et Paul qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Paul.
Salut messieurs, ça va ?
Salut Paul.
Écoute, on va très bien. Il y a quelques instants, nous avons parlé de Marco Verratti, mais toi, tu voulais absolument parler de Draxler.
Oui, ça me fait un peu plaisir de vous avoir parce que les dernières fois que j'étais intervenu à l'antenne, c'était surtout pour parler de Rabiot et donc j'avais plutôt envie de balancer des insultes que des fleurs.
Ah, Rabiot qui d'ailleurs a complètement disparu, hein, le feuilleton de tous ceux qui nous racontaient qu'il devait réintégrer le groupe, ceux qui avaient des bonnes informations là-dessus, effectivement, ils ont bien senti le coup.
Non, et du coup, ça va me permettre de parler du couteau suisse de Tourelle, hein, le bon vieux Swiss Army Knife Draxler qu'on a repositionné à chaque fois à plein de postes différents, qui a toujours, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais toujours fermé sa gueule, qu'on n'entend jamais et qui, je trouve, a eu cette faculté, cette intelligence de complètement mettre ses envies de briller en tant que ailier gauche, comme à un moment il était placé à Wolfsburg en Allemagne avec la sélection, et d'être un joueur spectaculaire et qui a complètement accepté le fait de se mettre au service d'un collectif, et j'ai l'impression qu'il prend du plaisir et je trouve qu'il n'est jamais décevant au complet, quoi, voilà.
Gagnez maintenant vos places pour Paris Saint-Germain, Manchester United sur AMC. Envoyez foot par SMS au 732-16.
Mais oui, le signal sonore vient de tomber, donc c'est à vous de jouer. Vous avez 20 minutes pour participer et remporter vos places pour le choc Paris Saint-Germain Manchester United. Envoyez maintenant foot au 7-32-16.
Oui, on avait
foot
en tout des places.
FOOT au 7-32-16. Bah, pas mal, hein.
On avait un carton, il était où le carton, là?
Bah, je sais pas, moi aussi, j'aurais bien aimé le trouver.
C'est fou, ça.
Filez-moi une, hein, putain.
Ouais, je suis désolé, mais envoie foot au 7-32-16 et pourquoi pas.
Je vais le faire, là, si je reste pas 20 minutes avec vous au téléphone.
Promis, de toute façon, on va pas te garder 20 minutes.
Ça,
mais
c'est un tirage au sort.
Oui, c'est un tirage au sort.
Ouais.
Bah oui, évidemment. Mais vous avez 20 minutes pour jouer, donc allez-y. Mais c'est vrai qu'on donne pas mal de place pour cette rencontre Paris Saint-Germain-Manchester. Paul, tu t'es bien fait couper la chic par le signal sonore. Tu étais en train de nous dire
grave.
Quoi
Bah, il nous parlait de Draxler. Il parlait de Draxler, mais il avait fini. Il avait dit qu'il kiffait sa race de Draxler.
Non, c'est pas qu'il avait fini, c'est que vous avez envie de parler. Ça, c'est différent.
Pas du tout.
Alors, Paul, on va écouter sur Draxler rapidement, parce que j'aimerais qu'on parle de Paredes après.
Draxler, aujourd'hui, tu peux pas tirer des enseignements sur le match de Draxler en disant, putain, le mec, il a fermé sa gueule.
C'est pas sur le match d'aujourd'hui, je veux dire, en général, quand même.
Bah, après, je suis désolé, mais, Draxler, il est venu avec beaucoup d'ambition. Certes, il avait un poste qui était offensif côté gauche. Quand tu vois les caractéristiques de ce joueur-là, bien sûr qu'il peut jouer dans le milieu de terrain. Il a essayé beaucoup de schémas avec lui.
Mais on a l'impression, pardonne-moi Jérôme, mais que les départs de Lo Celso, de Pastore, de Lucas dans un autre registre... Ça lui a fait du bien.
C'est un
parce
des joueurs les plus utiles. Arrête un peu tes conneries. Ça lui a fait du bien de perdre Lo Celso.
Il était en concurrence à chaque fois au milieu de terrain avec d'autres joueurs. Il
peut éventuellement plus jouer.
Oui.
Aujourd'hui, c'est un joueur de l'effectif, un de ceux qui est le plus utilisé, que ce soit en haut dans la ligne d'attaque, que ce soit au milieu, le gars joue. Te dire que si l'effectif est absolument au complet, il est titulaire dans un gros match de Ligue des Champions, peut-être pas, parce qu'a priori Neymar, Mbappé, Cavani, trois mecs au milieu, bon, peut-être qu'il y a pas, mais même pour Di Maria, dans ces cas-là, on pourrait poser la question. Aujourd'hui, si tu dois aller loin dans les compétitions avec 14-15 joueurs, il est dans ces 14-15 joueurs-là. Il est dans le premier groupe qui complète le 11. Il est pas dans le deuxième groupe. Ouais. Le deuxième groupe, c'est celui où il y aurait Nkunku, Diaby, tout ça. Lui, il est vraiment dans ce qui tourne le plus. Il est dans les 13-14.
Non, mais Daniel, il est comme tu le dis.
Et en joueur utilisé, il doit être top 5.
On va d'un point de vue tactique.
Donc c'est bien.
C'est sûr que quand il joue avec deux attaquants, avec Neymar, c'est-à-dire Cavani, Mbappé, Neymar en soutien, et trois milieux de terrain, si tout le monde est OP, il joue pas.
Ouais, mais il y a pas trois milieux de terrain puisque de toute façon maintenant ils jouent à trois, les deux. 3, donc en fait, il y a que deux places au milieu,
ça fait trois milieux, ça fait Di Maria, ouais. Verratti et puis Marquinhos mais en
un peu plus bas. Il arrive toujours à trouver
du
temps de jeu.
Par contre,
il est très haut dans le
même,
temps de jeu. Hein.
Non, mais après c'est d'un point de vue tactique. Même quand il y a tous les joueurs disponibles et ça lui est arrivé de sortir Cavani et de laisser que Mbappé avec Neymar, là il intègre le milieu de terrain. Ouais. Donc ça veut dire vraiment qu'il est le 12e homme là.
Moi je pense que c'est un joueur essentiel de cette équipe aujourd'hui sans problème Draxler.
Bon, c'est un exemple parce que c'est un mec qu'on met pas assez en lumière, je trouve, et c'est un vrai besogneux, et je vous le dis,
il est un beau joueur de talent.
Ouais,
c'est un beau joueur de foot, Draxler.
Bon, merci Paul d'avoir composé le 32-16. Alors, n'oublie pas d'envoyer foot au 732-16 pour remporter tes places.
Voting, il est quoi, c'est un fermier?
Et ça, j'ai pas la possibilité de t'offrir ces places comme ça pour ce match, mais je peux, en tout cas, si tu aimes le cinéma, t'offrir deux places de ciné pour le film. De la semaine prochaine, c'est Jusqu'ici tout va bien, la nouvelle comédie par le réalisateur de La Vache avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. Voilà, c'est pour toi.
Merci les mecs. Merci, top.
Bon, à bientôt sur RMC. Merci d'avoir composé le 32-16. Un petit mot sur Leandro Paredes. Jérôme, Daniel, vous voulez t'entendre dessus?
Moi, je...
Il y avait des doutes, Daniel.
Non, absolument pas.
Non.
Je cherche à comprendre ce qu'il vaut vraiment, quelle est sa marge de progression, est-ce qu'il va...
Non, mais tu te trouves timide, t'as des doutes, c'est pas négatif de dire ça.
Non, mais après, on a la même analyse, parce que c'est ce que je disais pendant le match. Il a un bon pied. Il a une super passe longue. Il a un pied vraiment pour être décisif sur les coups de pied arrêtés, que ça soit coup de pied arrêté indirect, même direct. On l'a
si
vu
on le
frapper.
Laisse tirer, ça va pas être évident qu'on le laisse beaucoup tirer.
Après, non, les corners, oui. En général, les corners côté pour un droitier, là rentrant, Di Maria de l'autre côté, lui de l'autre côté,
ça ne paraît pas.
Non,
alors moi je le vois bien traîner aux abords de la surface pour essayer un ballon qui traîne.
Même avec Neymar, je suis sûr. Mais bon, peu importe. Les coups de pied arrêtés, il peut t'apporter un plus. Par contre, dans le jeu, ils l'ont pris pour ça. C'est pour essayer de donner un autre aspect au milieu de terrain, un joueur d'effectif qui n'avait pas ces caractéristiques-là, c'est-à-dire un joueur qui a un volume qui est bien supérieur à ce que peut amener Verratti. Déjà essayer de jouer avec les deux et surtout qu'il aille par des courses ou même balle au pied transpercer les lignes. Il le fait pas, il le fait que par la passe pour l'instant. Et ça me dérange un petit peu parce que même par la passe, tu le vois.
Il s'engage pas encore vraiment. Mais s'il joue avec Verratti, c'est Verratti qui passe les lignes et lui il reste en couverture.
Ouais, du moins.
Mais lui, il a joué en point de base d'un milieu à trois. Et ça lui est arrivé, notamment à la Roma. Et alors que c'est pas à la base sa formation, il peut le faire. Mais au PSG, il y aura pas de ce genre de milieu de terrain là.
Non.
Donc quand il jouera, ce sera milieu à deux. Et dans ce milieu à deux, si à chaque fois on lui demande d'être celui qui couvre, à la limite, il sera plus proche de Thiago Motta que d'un 8 capable justement d'aller apporter sa frappe.
Mais Daniel, rappelle-toi quel joueur jouait aux côtés de Thiago Motta. Il y avait des.
Mais là, c'est un milieu à trois. Il y avait Matuidi et Verratti.
Voilà, il y avait des gratteurs de ballon. Ah, ouais. Il y avait surtout Matuidi qui venait de l'aider. Et le problème, c'est que en jouant un point de base, bien sûr, qu'il peut jouer dans un milieu de terrain face au jeu. Il a une très belle passe. De toute façon, passe courte ou passe longue, il voit clair, il voit juste. Mais le problème, c'est que après, physiquement, il faut qu'il passe un cap. C'est soit tu deviens dans ce rôle-là le joueur qui va venir gratter, récupérer des ballons par des tacles avec des courses. Ou aller harceler le milieu de terrain adverse. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus d'efforts. Alors, est-ce qu'il le fait pas pour l'instant parce qu'il est timide, parce qu'il vient d'arriver, parce que aussi il faut qu'il se remette dans le coup et surtout que il ait la confiance de son entraîneur, parce que là, très clairement, quand il regarde l'effectif, on parlait des gros matchs de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est pas titulaire dans cette équipe. C'est un remplaçant et ça, il le sait. Après, peut-être à lui et
normalement mercredi, tu veux dire, ça jouera Marquinhos, Verratti.
Marquinhos, Verratti, Di Maria.
Trois derrière, donc probablement Alves à droite, après Bernat à gauche.
Ouais.
Et après devant Di Maria, Mbappé, Cavani s'il revient,
Draxler, voilà,
Draxler,
ça
si Cavani revient
exactement.
Pas et
c'est ça.
Que ça ouais.
Bah, on le sait maintenant, il faudrait une blessure au milieu de terrain pour que Leandro Paredes joue un match de Ligue des Champions.
Oui, mais
là encore le mec qui vient
pas grave,
forcément
hein.
Le gars.
Ah non.
Il vient lui aussi va faire partie du groupe de 14-15 et il risque de rentrer en jeu et quand tu rentres en jeu, il faut être bon tout de suite.
La seule chose c'est qu'il va falloir qu'il nous montre autre chose parce que le prix du transfert
oui, tu t'attends, il faut qu'il monte en gamme là.
Écoute,
là on sent que c'est un bon joueur mais on a envie envie de voir un petit peu plus quand même.
Ouais. Ok, voilà ce que l'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain ce soir et cette magnifique victoire. Donc 3-0 face à Dijon. Le PSG, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Notre deuxième thème dans l'after ce soir, il est 23h38. Nous allons parler des Girondins de Bordeaux. Un peu moins de 5 mois après son retour à Bordeaux comme manager général, Ricardo a donc été démis de ses fonctions aujourd'hui. Bordeaux qui est actuellement 13e de Ligue 1. Ses dirigeants, les propriétaires américains lui ont annoncé la nouvelle aujourd'hui. Et Joseph Dagrossa, le propriétaire de cette équipe...
Tu n'appelles pas Joe, toi ? Appelle-le Joe.
Ouais. Ouais, ça fait plus John. Ouais, oui, ça fait plus
tout
cool.
Tout le monde l'appelle Joe, c'est pas Joseph.
Joseph, ouais,
Joe.
Ok. Je vais recommencer. Joe Dagrossa. Et donc, les propriétaires lui ont annoncé à Ricardo. Et sachez que Joe Dagrossa, le propriétaire de ces Girondins, était aujourd'hui dans Breaking Sport. Et il nous a confirmé la nouvelle, les raisons de l'éviction de Ricardo. Je vous propose de l'écouter.
We decided to part ways really because of the on-field performance.
Nous avons décidé de ça à cause des performances sur le terrain. Ça a été une saison compliquée pour lui. On en a conclu que l'équipe avait besoin de nouvelles ambitions.
Et voilà pour la première déclaration de Joe Dagrossa. Si vous voulez, j'ai un peu plus long, si tu veux, non, Daniel.
Ouais, ça va aller, on a compris. Dehors, parce que c'est plus rien qui marchait à Bordeaux.
Bon, dans quelques instants, on parlera évidemment du successeur. Non, mais d'abord sur la situation actuelle.
Je comprends,
Daniel.
En fait, de toute façon, quand Ricardo arrive, déjà, ça rime à rien. La façon dont il arrive, je peux pas réellement entraîner, je suis obligé de prendre le prof de gym en couverture, je dirige mais pas vraiment, en plus le pauvre, on sait que sa santé est fragile. Franchement, c'était cramé. À côté de ça, il y a plus rien qui va, plus personne vient au stade, le jeu de l'équipe est mauvais, enfin, Bordeaux est en déliquescence totale. T'as un nouvel actionnaire, le nouvel actionnaire, il a quand même un peu d'ambition que le club soit debout et marche correctement. De toute façon, il sait qu'il a l'idée de changer énormément de choses cet été. Il a pris un nouveau président, là, l'ancien gymnaste. Bon, qu'il le fasse au mois de juin ou qu'il le fasse maintenant...
Tu parles de Frédéric Longuépé.
Voilà. Bordeaux est quoi, 8 points d'avoir assuré totalement le maintien, même pas, il devait être à
32 points Bordeaux.
5 points, on va dire. Allez, 4 points, le maintien est fait, points. Donc ils doivent déjà penser à la saison prochaine. Donc, anticiper en agissant dès le mois de février, je trouve pas que ce soit absurde, vraiment. Évidemment, il faut déjà prendre l'entraîneur avec lequel tu vas continuer l'aventure, parce que le gars, comme ça, il pourra déjà bosser avec le groupe, voir avec qui il a envie de bosser, avec qui il a pas envie de bosser et qui il faut vendre. Je pense que l'entraîneur, c'est pas que je pense, j'en suis même sûr, ce sera un étranger.
Selon nos informations, c'est un étranger.
Oui. Il y a, ouais, Paulo Souza semble le mieux parti pour l'instant. Le gars va venir tout de suite, va pouvoir un peu faire le tri. Je pense que c'est pas absurde d'avoir décidé ça et là maintenant, quoi. Voilà.
Moi, je suis un peu à l'opposé de Daniel. Après, c'est vrai que ces arguments, je les entends. Le fait que, en effet, ce club risque rien aujourd'hui, relégation, et risque rien dans le haut du tableau, donc ils vont finir dans le ventre mou la plus totale. De toute façon, ce qui est devenu ce club, malheureusement, des Girondins de Bordeaux, où ce qui se passe. Tu prends les jeunes passionnés de foot aujourd'hui, tu leur parles de Bordeaux, ça leur parle pas. Voilà, donc
mais que Bordeaux soit dans la déliquescence, je suis d'accord avec toi. Maintenant, comme il fallait prendre une décision et que le mec il devait le faire, ça compte faire ça maintenant.
Exactement. Après, la première erreur, ça a quand même été de prendre Ricardo.
C'est mélange avec l'ancienne direction. C'est quand même confus.
Oui, mais quand même. T'es d'accord avec moi.
La décision, c'est confus.
T'es d'accord qu'il fallait attendre. Rappelle-toi l'épisode Thierry Henry. Il fallait attendre l'aval des nouveaux. Donc,
à l'arrivée, c'était confus. Martin était encore là,
oui, mais ils ont quand même eu leur mot à dire. Alors après,
M6 qui militait pour Thierry Henry, eux avaient pas, ils voulaient pas mettre le blé qu'ils réclamaient.
Donc d'accord, ok. Mais quand tu prends Ricardo, c'est sûr que les gens, dans tous les cas, ils allaient pas s'éclater. Ricardo, ça a jamais été des équipes très joueuses.
C'est sûr.
Tu vois, donc tu le sais. Donc erreur de casting.
Bah surtout dans ces conditions-là.
En plus,
qui est-ce qui a finalement pris la décision comme quoi il avait pas les compétences, les diplômes et qu'il pouvait pas exercer réellement? C'est l'Unicatef qui a décidé de ça.
Ouais. Non mais
l'UNICATEF.
Ouais, c'est ça.
Il y a qui dans l'UNICATEF?
Le président.
Il y a qui, c'est qui les personnalités? Non,
mais je vais regarder, il y a pas de problème. Je suis votre Wikipédia, il y a aucun problème, les mecs. En plus, j'ai internet sous les yeux, ça va être parfait.
Non, mais pour ça, c'est des erreurs. Alors après, oui, bien sûr que aujourd'hui, tu te dis bon, on vire l'entraîneur, de toute façon, c'est pas lui qui va rester l'année prochaine, on va travailler avec
Raymond Domenech.
C'était pas sûr, c'est pour ça.
Et donc ça pourrait être une bonne piste pour Bordeaux, hein, s'ils veulent s'éclater.
Non, ils vont prendre un étranger.
Non, mais c'était une boutade.
Il a jamais vraiment entraîné.
Ouais, non, c'est.
Mais au fond, il a jamais vraiment entraîné.
Non.
Bon, tu sais pas le débat.
Mulhouse, c'était à la fin des années 80. Lyon, bon, c'était
ouais,
pareil.
Et après, c'est sélectionneur, ça compte pas.
Après, les espoirs.
Ouais. Et puis après.
Les espoirs avec, c'est quoi, Atlanta 96? Ah non, avant il y a eu la revente des places de Bulgarie et Corée. Après il y a eu les Bleus, mais en 2006 c'est pas lui. Tu vois, ils travaillent ici. Bon, expliquer comment ça s'est passé. Il a jamais vraiment entraîné.
Ouais.
Mais en tout cas aujourd'hui il dit qu'il est un bon entraîneur, qu'il est compétent, qu'il peut faire ci ou ça.
Mais non, mais moi pour finir sur Bordeaux, je ok, mais qu'il se trompe pas quoi, parce que. Difficile de aujourd'hui de voir dans la suite pour que les gens s'éclatent, pour faire revenir le public, pour que les joueurs ils aient déjà, il va falloir des joueurs, beaucoup de joueurs, et qui mettent la main à...
Là, je sais pas.
Non mais
c'est
oui,
pas la main au portefeuille là, c'est non, chiquier,
c'est pour ça bleue. donc ça, moi j'ai des gros doutes là-dessus.
Ça paraît pas être le profil.
J'ai des gros doutes là-dessus, donc ils vont te prendre un entraîneur étranger qui va avoir plein d'ambition, envie de bien faire, il va pas connaître le championnat, il va pas connaître ce groupe.
Ouais, enfin ça, ils vont pas le prendre pour un babo, le gars, il sait où il va mettre les pieds.
Bah justement,
ils vont pas lui faire croire qu'ils vont lui recruter un wagon de bons joueurs.
Tu me disais quoi comme nom là?
Paulo Sousa.
Oui, j'allais dire Fonseca, non, Paulo Sousa. Ouais.
Paulo Sousa. En fait, d'ailleurs, Paulo on en parle Sousa. Dans quelques instants de Paulo Sousa, et puis vous allez me donner d'autres noms. Si vous avez des pistes, on va peut-être aider les dirigeants bordelais.
René Girard, Pascal Duprat.
Laurent Blanc.
Le renouveau, quoi.
Non, t'as dit entraîneur.
Laurent Blanc pour un retour au sport.
Non, on a dit entraîneur.
En fait, en même temps, c'est pas long. Tu vois, par Saint-Etienne, un petit coup de fil pour avoir les compos. Et le programme de la séance d'entraînement, je peux faire ça par Skype, ça se fait.
Je vous adore parce
que... Attends, là, maintenant, il a eu le temps. Depuis de longues années, il a le temps d'avoir fait,
je vous vois quoi?
Tu sais que la prochaine fois qu'il aura un poste, tu sais qui sera son adjoint? Gasset, c'est fini.
Ah,
bravo.
Ah, pas mal. Alors, non, mais vous savez
je te garantis que quand il reprend un poste, c'est ça.
Très bien, Daniel, mais je suis en train de dire un truc, là. On se voit quoi? Tous les 3-4 mois, à peu près. Je reviens faire l'after et voilà. Et en fait, vous avez toujours les mêmes marottes et je vous adore pour ça. Je trouve que c'est génial.
Quelle marotte de
parce
quoi?
Parce que j'ai l'impression qu'on s'est jamais quitté.
On en avait parlé, ça.
Hein, avec Laurent Blanc. Ouais. Et on en parle tous les soirs dans l'after. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, Football Show. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Jean-Christophe Drouet.
À 23h49, la dernière ligne droite de l'after, toujours avec Daniel Riolo et Jérôme Roten. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Donc, on vous rappelle ce résultat, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 en quart de finale de la Coupe de France. Face à Dijon, un doublé d'entre elles, Di Maria, et un but de Thomas Meunier. Demain, il y aura deux autres quarts de finale à Rennes-Orléans à 18h30, à suivre sur RMC, évidemment, en même temps que Tim Dugas. Et puis à 21h, on sera là dans le RMC Football Show pour Lyon-Caen. Nous étions en train de parler de Bordeaux, les raisons du départ de Ricardo. Ça, c'est fait. Maintenant, la suite. Le successeur, Edjo da Grossa, nous en a dit un petit peu plus, notamment qu'Eric Bédoué allait quitter ses fonctions.
Eric a été une personne fantastique. On a toujours pu compter sur lui. Nous allons faire un changement de coach avant la fin de la saison. Nous allons trouver la bonne personne. Mais il y aura un changement de coach avant la fin de la saison. Nous avons identifié quelqu'un. Les négociations sont en cours. On ne fera pas d'annonce jusqu'à la fin de ces négociations.
Et voilà, les négociations en cours, et il a déclaré également que ce serait ni Gustavo Poyet pour un retour un petit peu à la Jardim, à l'AS Monaco, et ce ne sera pas non plus Claude Puel. De toute façon, on vous a donné nos informations. Les Girondins de Bordeaux qui cherchent un entraîneur étranger. Élie, supporter des Girondins, nous appelle au 32-16. Bonsoir Élie. Et toi, tu vois
c'est
bien.
Élie Bob.
Élie, c'est toi?
Ouais, bonsoir messieurs.
Ah non, c'est pas Élie Bob, rien à voir avec la voix. Paulo Sousa, pour toi, doit être le successeur de Ricardo.
Ouais, c'est Paulo Sousa, enfin, c'est ce que indiquent plusieurs sources et plusieurs informations. C'est une journaliste portugaise qui a sorti cette information. Paulo Sousa, c'est un coach qui a beaucoup voyagé, hein, qui est passé par le FC Bâle, la Fiorentina, le Maccabi Tel Aviv, qui a même battu Bordeaux en 2014-2015 en Europa League.
Sa dernière expérience, c'est la Chine, hein.
Ouais, directement c'est la Chine, mais c'est un salaire quand même qui est connu pour beaucoup.
Il a fait un petit peu de blé avant de revenir peinard réellement faire son métier maintenant.
Donc voilà, donc après moi d'abord concernant donc Paulo Sousa, donc je suis assez si c'est lui en tout cas je serais assez content, mais après il faut voir aussi les joueurs qu'il aura à sa disposition. Après aussi je voudrais revenir un peu sur Ricardo, parce que quand même je voudrais lui rendre hommage, même s'il a pas réussi cette fois-ci, c'est quand même un grand homme Ricardo, et on n'a pas donné sa chance, enfin la Ligue, en tout cas l'UNECATEF lui a pas laissé faire son travail correctement. Après je pense qu'il est arrivé dans les mauvaises conditions. Moi j'aime pas qu'on vire les entraîneurs, mais là c'était inéluctable et il fallait aujourd'hui que Ricardo parte, parce qu'il n'y avait pas d'état d'esprit et les joueurs ne travaillaient plus, on dirait que le message ne passait plus. Et en plus Daniel a évoqué toutes les circonstances, que fait que ce soit M6 qui ait choisi, alors qu'on savait très bien qu'il n'allait pas rester jusqu'à la fin de la saison. Et je pense que ce qui a poussé aussi les Américains à débarquer Ricardo, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jeu, tout simplement, qu'il n'y ait pas d'envie sur le terrain, qu'il n'y ait même plus d'état d'esprit. C'est très compliqué. Je pense qu'en fait, les Américains, ils étaient partis pour le garder jusqu'en juin, et après en juin, le débarquer et mettre leur vrai entraîneur qui voulait pour le projet. Sauf qu'aujourd'hui, ça va tellement mal qu'ils nous ont dit autant qu'on en profite et qu'on reconstruise dès maintenant pour préparer l'avenir, et afin de pouvoir habituer le nouvel entraîneur et choisir au moins son effectif.
Okay.
Ricardo n'a pas mis la meilleure condition, quoi. C'est ça ce que je voulais dire.
Voilà pour l'hommage pour Ricardo. Daniel, Jérôme, Paulo Sousa, déjà, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
On connaît
évidemment
peu, mais c'est
ancien
vrai que
international du Portugal, on l'a connu dans les années 90, au début des années 2000 aussi.
En tout cas, ce qui ressortait, au-delà de ses bons ou moins bons résultats, c'était que c'était toujours des équipes qui étaient agréables à regarder. Ça, voilà, c'était une constante. Maintenant, après, dans quel contexte, avec quel joueur, comment il pourra travailler, c'est compliqué de se prononcer là-dessus.
Il y a d'autres noms là. José Mourinho, il voulait aller entraîner en Ligue 1. Il l'a dit récemment.
Tu le vois venir à Bordeaux là, à la Matmut, avec tribune vide.
Écoute, je me souviens, je le connais pas personnellement, mais moi j'ai commenté le foot italien sur une autre chaîne il y a quelques années, et il était donc entraîneur de la Fiorentina, donc je l'avais fait pas mal de fois, et c'est vrai que je rejoins Daniel, c'est un entraîneur qui prône énormément de jeux, c'est un jeu agréable.
Il est élégant, il dégage une belle image pour un club qui veut revenir sur le devant de la scène.
Je pense que c'est
un gars qui fera des belles confs, qui a de belles idées.
Après à la Fiorentina, il y avait le profil des joueurs comme ça aussi. Quand je regarde le Bordeaux,
le truc c'est qu'à Bordeaux, c'est même pas qu'il y a quoi.
Ben oui. Et que entre ceux qui se prennent pour d'autres, qui pensent qu'ils peuvent jouer dans des grands clubs, Camano et d'autres, ceux qui sont prêtés par des grands clubs et puis qui après deux matchs pètent un boulon, entre ceux qui ont pas le niveau. Mais t'imagines, c'est les trois quarts de l'effectif. Donc il y a l'entraîneur, et c'est bien de choisir un entraîneur comme ça, qui a des idées bien précises sur ce qu'il veut mettre en place, mais il faut lui donner la possibilité de le faire. Alors, quand tu prends ce genre d'entraîneur, qui a quand même un CV en tant que joueur impressionnant, qui a du charisme, qui a entraîné des belles équipes, il va pas venir comme ça, on lui bande les yeux, et puis il signe le chèque, surtout que bon, si c'est une affaire financière, je pense qu'il serait resté en Chine. Donc c'est vraiment une affaire sportive de venir à Bordeaux. Donc c'est avec des assurances.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur les Girondins de Bordeaux. On en reparlera évidemment cette semaine avec nos autres informations. Je vous propose de parler deux minutes de l'Olympique Lyonnais, et notamment je te propose d'en parler demain, parce qu'il y a un classico.
On
va en parler, pardonne-moi, mais forcément on a été bavard sur le Paris Saint-Germain. Bruno Genesio aujourd'hui en conférence de presse.
Je suis persuadé que les joueurs ne ne le font pas exprès et ne sont pas volontairement dans cet état d'esprit-là. Ce sont des choses qui sont véhiculées autour d'eux. Je le dis souvent et on me reproche de chercher des excuses. C'est pas de chercher des excuses, ce sont des faits. On a une équipe très très jeune. Ils se retrouvent pour certains internationaux, pour d'autres avec des bruits comme quoi ils seraient sollicités par tel et tel très grand club. Donc c'est difficile à gérer ça.
C'est difficile à gérer et Bruno Genesio qui a déclaré qu'il fallait arrêter de parler et lui aussi sur sa situation personnelle. Bref, arrêter de parler dans les médias pour se reconcentrer sur le jeu.
D'accord, moi ça faisait partie de mes points parce que là je veux le défendre de ce côté-là. Parler de sa prolongation, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son président. Le président, il a qu'à être plus clair et arrêter de nous faire croire qu'un jour, c'est le meilleur entraîneur au monde et qu'il va le prolonger. Et puis à l'arrivée, ça se trouve, il va pas le prolonger. D'attendre fin mars parce qu'il attend la double confrontation contre Barcelone. Et c'est sûr que si jamais il faisait un exploit, c'est très difficile de le virer, donc il le garderait. S'il perd, c'est facile de lui dire, écoute, on est irrégulier, inconstant, donc on va en chercher un autre. Donc ça, c'est déjà pour ça qu'il y a autant de questions sur son avenir. Après, les joueurs. Oui, les joueurs, c'est des joueurs qui, certains ont du mal à retomber, à avoir les pieds sur terre. Je parle de Ndombele qui est là. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans l'attitude. Quand il est remplaçant, quand il rentre. Je me mets à sa place, ça doit pas être facile. C'est tellement aller vite pour lui aussi, pour parler de ce cas-là, que il lui faut peut-être un certain temps pour, au bout d'un moment, se rendre compte que c'est devenu un joueur important de Lyon, un joueur international, et que il faut des fois des semaines pour avoir les pieds sur terre, peut-être. Mais d'autres, c'est récurrent. Et si c'est récurrent de choisir leur match et de moins être concentré, moins motivé, c'est un problème de staff et d'ambiance dans ce club. C'est pas possible. Me dites pas que c'est juste la faute de Memphis Depay, parce que vu qu'il est régulier, les résultats de Lyon sont réguliers. Non, c'est un ensemble de choses.
Ok, et demain il y aura cette rencontre Lyon-Caen que l'on débriefera ensemble. Ce sera à partir de 21h. Je te sens déçu, je sens que tu me fais un peu la gueule.
Pas s'il n'y a pas la justice européenne.
On en parle demain, promis.
Très important.
Après le Classico, ça va être génial. En plus, ça nous fait un rapport au niveau de l'actu, tout ça, ça va être incroyable. Ouais, c'est très bien ficelé, c'est bien. Très bien monté.
Il y aura Fred.
Oui, il y aura Fred.
Oh là là. Est-ce qu'il va pas nous inventer encore
là-dessus? Il va déjà, lui n'y pas trop parce qu'il va préparer son.
Peut-être le point le plus important. Le point le plus important de la soirée. On va faire un dernier point sur ce sondage, juste pour voir si on a senti inquiétude. Mon inquiétude par rapport à ce positionnement de Dijon et au jeu de Dijon. Sachez que vous avez été très nombreux à réagir, 1600 votes, et à 53% vous avez été d'accord avec moi et vous m'avez trouvé convaincant sur l'inquiétude. Voilà. Merci beaucoup, on se retrouve demain avec Jérôme et Daniel pour un nouvel after et le RMC Football Show, c'est à partir de 20h pour les quarts de finale de la Coupe de France. Salut.
RMC Football Show, l'After Foot.